Bonjour à vous, amis des fées qui choisissez de nous écouter. Bonjour et bienvenue dans notre émission Il était une fois en Cornouailles sur Radio Évasion. Je suis Christophe Méchin, président de la Maison des Contes et Légendes de Cornouailles, et pendant les 26 prochaines minutes, je vais vous emmener au pays où l'on n'arrive jamais, celui des contes et des légendes de l'ancienne Cornouailles bretonne. Aujourd'hui, deux invités d'honneur dans notre émission, puisque nous allons parler des plus puissantes enchanteresses de toutes les Bretagnes. J'ai nommé Aes, fille du roi Conan de Meriadec, première roi mythique d'Armorec, et Dahu, princesse de la ville d'Is. Puis, comme chaque semaine, je tenterai dans une seconde partie de relever le défi d'improviser une histoire à partir d'éléments que l'un ou l'une d'entre vous a envoyés sur la page Facebook de notre association. Commençons donc par faire la connaissance de l'enchanteresse Aes, qui est la plus puissante enchanteresse de Bretagne. Elle est souvent confondue avec Dahu, la fille du roi Gradelon, mais en fait, elle était la fille d'un des premiers rois de Bretagne, Conan Meriadec, arrivé en Cornouailles. C'était une princesse choyée par son père qui la tenait enfermée dans son palais pour la protéger des dangers du monde extérieur. L'année de ses 15 ans, elle parvient à s'échapper et se promène dans la ville que son père a fait construire pour elle, Carhaix. Ce nom de Carhaix viendrait d'ailleurs de Ker Aes, ou foyer d'Aes en breton. Découvrant le monde, tout l'émerveillait jusqu'à ce qu'un oiseau tombe mort à ses pieds. Elle ne savait pas ce que c'était que la mort. Les gardes de son père la retrouvent et la ramènent au palais. Lorsqu'elle demande à ses serviteurs ce qu'était la mort et pourquoi l'oiseau ne bougeait plus, il lui révèle que tout le monde meurt un jour ou l'autre sans possibilité d'y échapper. Aes est alors désespérée. Son père fait venir tous les médecins de son royaume pour tenter de lui redonner la joie de vivre. Comme ils se déclarent impuissants, il fait venir tous les magiciens. Ces derniers lui avouent qu'ils ne savent pas non plus comment guérir la mélancolie. C'est ainsi qu'on appelait la dépression à l'époque. Toutefois, comme la guérison ne peut venir que de la jeune fille elle-même, ils proposent au roi de l'initier chacun à leur magie. Ainsi, ayant toutes leurs connaissances à sa disposition, Aes pourra peut-être trouver la solution à son problème. La princesse accepte et devient donc celle qui connaît tous les secrets de tous les magiciens de Bretagne, ce qui fait d'elle l'enchanteresse la plus puissante. Mais, comme on a dit dans un film, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Aes s'emploie alors à améliorer le quotidien des sujets de son père en construisant des routes pavées ou de gigantesques murailles en l'espace d'une seule nuit. Elle en oublie pendant un temps sa condition de mortelle. Le temps passe, Aes vieillit tout en restant jeune, puis, sachant que sa dernière heure approche, elle ensorcelle un poirier dans la cour de son château, afin que quiconque y monte pour cueillir un fruit s'y retrouve bloqué, à moins qu'elle ne donne elle-même la permission de redescendre. Lorsque l'Ankou vient la chercher pour l'emmener, elle lui demande comme dernière volonté d'aller lui cueillir une poire dans son poirier préféré. L'Ankou accepte et se retrouve piégé dans l'arbre. Aes lui révèle son stratagème et propose de le libérer en échange de l'immortalité pour elle, mais l'Ankou refuse. Aes est née mortelle, elle devra donc mourir. Toutefois, beau joueur et reconnaissant sa prise au piège, il propose à la princesse de ne venir la chercher que lorsque elle-même l'appellera. Aes accepte. La tradition veut qu'elle n'ait toujours pas appelé l'Ankou et qu'elle continue de déambuler selon ses humeurs. On la voit parfois changeant d'apparence au gré de ses envies. Certains soirs, dans la brume des rues de Carhaix qui disparaissent au petit matin, elle erre, exauçant un vœu pour chaque personne méritante qu'elle rencontre. Anatole Le Braz a, quant à lui, recueilli un récit qui la place dans la grotte de Morgade de la presqu'île de Crozon, où elle serait devenue une Marie Morgan, une fée de la mer. Elle apparaît parfois aux pêcheurs en émergeant de l'eau, entièrement nue. Sa nudité protégée par ses cheveux coiffés en une natte qui s'enroule autour d'elle comme un vêtement. Mais d'où vient-elle, notre enchanteresse Aes? Son histoire se rattache à la tradition littéraire indo-européenne découlant de l'enfance de Bouddha, lorsqu'il était encore le prince Siddhartha. Ce genre de récit de découverte de la mort par le fils ou la fille d'un roi surprotégé qui entraîne une renonciation aux illusions du pouvoir terrestre a été maintes fois repris par l'Église pour illustrer des sermons. Les premières mentions littéraires d'Aès apparaissent dans le roman d'Aquin, qui date du XIIe siècle, sous la forme Oès. C'est alors le nom d'un roi, Oès de Caraès, de Carré, lequel raconte l'histoire de son épouse à ses compagnons sans jamais la nommer et en la donnant pour morte depuis plus de 100 ans, la femme Oès. Cette dernière, dans le roman, était la fille du seigneur Corsou, ou Corsoult. Elle passe sa jeunesse à se bercer d'espérance d'une existence mondaine inaltérable et suffisante. Elle en conçoit des ambitions démesurées et entreprend une œuvre monumentale qui fera apprécier et s'étendre sa puissance orgueilleuse. Toujours selon ce récit, défrichant à tout va, elle fit faire une grande chemin pavé par où elle haste à Paris la cité. Donc elle fit faire une grande route pavée pour aller jusqu'à Paris la cité. Un jour pourtant, la femme fait une rencontre qui s'impose à elle, un merle mort. Elle a alors une révélation spirituelle et morale. Elle qui croyait déployer sans fin sa puissance, découvre devant la finitude de la vie en général que tous les êtres vivants sont mortels et que leurs œuvres finissent par passer. Elle se repent de son orgueil, méprise sa condition mondaine, renie ses anciennes croyances et fait arrêter tous les grands travaux qu'elle avait entrepris. Elle vécut plus de 300 ans. La tradition en a fait l'initiatrice des voies pavées qui parcourent tout le centre-Bretagne et que l'on appelait pour cette raison les Hent Aes ou Sentiers d'Aes. Lorsque l'on se place au niveau symbolique, il est intéressant de se rappeler qu'Aes est fille du seigneur de Corsoult, une ville que le peuple celte des Coriosolites a aménagée en Civitas sous la pression de l'empereur romain Octave Auguste, donc après la guerre des Gaules, et qui a servi de relais pour la romanisation de toute la région. Carré, la ville d'Aes, sera également importante sous les Romains qui en feront une capitale régionale, point de départ de 7 voies romaines, la reliant au reste de l'Empire. Les fameuses Hent Aes déjà mentionnées. Certains disent d'ailleurs que les villes de Corsoult et Carré ne font qu'une. Revenons cependant à Aes, notre enchanteresse. Puisque l'imaginaire collectif fait de la femme Oès transformée avec le temps en Aes, l'initiatrice des voies pavées, c'est qu'elle symbolisait la Rome antique, païenne et puissante. Le temps la dotera donc d'immenses pouvoirs magiques et en fera une enchanteresse. Elle suivra ensuite le schéma littéraire classique de la païenne puissante qui se convertit et se repent. Alors y a-t-il un lien entre cette enchanteresse Aes et Dahu, princesse et maîtresse de la ville d'Is ? Eh oui, toutes les deux sont princesses déjà. Eh bien, à la maison des contes et légendes de Cornouailles, nous pensons que oui. Dahu est la fille du roi Gradelon de Cornouailles et d'une reine du Nord appelée Malgwen ou Malgwen, dont nous avons fait la connaissance la semaine dernière à l'occasion de l'émission sur la ville d'Is. Cette dernière offre son trésor et son corps à Gradelon s'il tue son mari, un vieux roi pétri d'alcool et de vice. Gradelon, toujours prêt à rendre service, s'exécute et ramène avec lui Malgwen dont il est tombé amoureux. Mais les vents sont contraires à ses navires et le retour du roi Gradelon en Cornouailles prend plus de temps que prévu. La reine tombe enceinte et meurt en couche sur l'océan, en donnant naissance à une petite fille, Dahu. Des circonstances de sa naissance, la princesse va garder un caractère bien trempé et un amour immodéré pour l'océan dans lequel repose sa mère. Adepte des anciens cultes, elle ne va pas supporter l'influence grandissante de l'église à Quimper où son père a établi Corentin comme évêque. Elle va donc insister pour avoir sa ville à elle, le plus près possible de l'océan qu'elle aime tant. Gradelon, qui ne peut rien refuser à sa fille, va lui faire ce cadeau. C'est ainsi que Dahu va devenir souveraine de la ville d'Is, construite rien que pour elle. Soucieuse du bien-être de ses sujets, elle demandera à l'océan de libérer 1000 dragons et en donnera un à chaque foyer 10. Chaque dragon aura pour mission d'aller couler des navires au profit de sa maison en ramenant la cargaison. Pour remercier l'océan, Dahu avait promis une victime en sacrifice, une victime par dragon. Elle devait donc faire 1000 sacrifices. Pour joindre l'utile à l'agréable, elle va prendre un nouvel amant chaque nuit et le faire tuer au petit matin, puis jeter son corps dans les flots bleus. Devant ses péchés et sur les conseils de Saint Guénolé, son père va décider de construire une cathédrale en plein milieu de la ville d'Is. Dahu est folle de rage. Elle s'enfuit sur l'île de Saint pour y être initiée à la magie par les anciennes druidesses. En une nuit, elle va faire construire par les esprits élémentaires un splendide château qui fera passer la cathédrale pour une simple chapelle. Magicienne, adorant les anciens dieux, la pauvre Dahu avait tout contre elle. En plus, elle va tomber amoureuse d'un jeune et riche bel étranger à qui elle va remettre les clés des digues protégeant Iss de l'océan. Le jeune étranger se révélera être le diable, envoyé par Dieu pour la punir et détruire sa ville. Il va ouvrir toutes les digues et Iss sera englouti. Gradelon fuit en prenant sa fille en croupe, mais il doit la rejeter dans les flots sous peine d'être englouti avec la ville. Dahu va sombrer à l'endroit qui porte encore son nom aujourd'hui, le Toul Dahu ou Trou de Dahu. Mais Dahu est magicienne et Dahu est puissante. Elle va commencer par figer les habitants de sa ville dans l'attitude qu'ils avaient au moment de la submersion. Ainsi, même s'ils sont bloqués dans leur dernière attitude jusqu'au jugement dernier, au moins ne sont-ils pas morts noyés. Ensuite, elle va se transformer elle-même en sirène, dont on verra souvent la progéniture en baie de Douarnenez. Oui, vous avez bien compris, Dahu est la mère de toutes les sirènes de la baie de Douarnenez. Elle prendra également le temps, parfois, de quelques escapades sur la terre ferme, principalement sous la forme d'une biche toute blanche. C'est ainsi qu'un jour, elle sera pourchassée par le roi Marc, qu'elle condamnera en représailles à porter les oreilles et la crinière de son cheval. Mais cela fera l'objet d'une autre émission. La princesse Dahu n'existait pas dans les premières versions de la légende de la ville d'Iss. Ainsi, dans la version de la fin du XIVe siècle, transcrite par le chanoine Moreau, seule la mauvaise conduite des habitants y était la cause du cataclysme qui engloutissait la ville. Mais alors d'où vient-elle, cette princesse Dahu? Plusieurs éléments permettent d'échafauder une hypothèse cohérente. D'abord, le nom Iss viendrait du breton Keris, qui signifie « ville basse » en breton, et qui était accolé sans doute au nom d'une bourgade envahie par les eaux en baie de Douarnenez à la fin du Ve siècle, comme le montrent les ruines visibles à marée basse. C'est ce sobriquet de Keris qui aurait donné le nom de Iss. La princesse Dahu, absente des premières versions, comme je l'ai déjà dit, n'apparaît dans la légende qu'à partir du XVIIe siècle, avec la version des vies des saints de Bretagne d'Albert le Grand, religieux de Morlaix. Alors qu'a-t-il écrit cet Albert le Grand? Eh bien, il a écrit ceci. « Après avoir nommé Corentin évêque et seigneur de Quimper, le roi Gradelon transféra sa cour en une grande ville sur le bord de la mer, entre le cap de Fontenoy, c'est l'ancien nom de la pointe du Raz, et la pointe de Crozon, ancien nom du cap de la Chèvre. Cette ville s'appelait Iss. Guénolé allait souvent voir le roi en sa superbe cité et prêchait fort hautement contre les abominations qui se commettaient en cette ville, tout absorbée en luxure, débauche et vanité. Dieu lui révéla la juste punition qu'il en voulait faire et l'heure du châtiment. Guénolé dit alors au roi « Ah, sire, sortons au plus tôt de lieu, car l'ire de Dieu le va présentement accabler. » Gradelon fit incontinent trousser bagages et, ayant fait mettre hors de ce qu'il avait de plus cher, monta à cheval avec ses officiers et domestiques, puis à pointe d'éperon se sauva hors la ville. À peine eut-il sorti les portes qu'un orage violent s'éleva avec des vents si impétueux que la mer, se jetant hors de ses limites ordinaires et se précipitant de furie sur cette misérable cité, noya plusieurs milliers de personnes, dont on attribua la cause principale à Dahu, fille impudique du bon roi, laquelle périt en cet abîme et évita de causer la perte du roi, pour ce que l'histoire assure qu'elle avait pris à son père la clé qu'il portait pendant à son col comme symbole de sa royauté. Albert le Grand n'évoque pas encore les écluses. La clé est ici le symbole de la royauté. Pas d'intervention du diable non plus. Le récit est dès lors utilisé pour l'édification des masses. Pour Roger, dans son Dictionnaire historique et géographique de Bretagne, la légende fait partie des exercices spirituels de la vie chrétienne pour la mission. Lui-même ne croit pas en l'existence de la ville d'Iss. Page 111 de son livre, il écrit « Cette ville, célèbre dans l'idée des gens qui aiment à se repaître de fables, fut engloutie, suivant la tradition vulgaire, au temps du roi Gradelon, pour punition des crimes de ses habitants. Les uns la placent à l'entrée du port d'Audierne, d'autres à l'extrémité de la baie de Douarnenez, d'autres à l'embouchure de la rivière de Quimper, d'autres enfin à Carès, mais l'opinion la plus probable est qu'elle n'exista jamais. Ce texte qui mentionne Keraes a sans doute initialisé cette confusion entre Aes et Dahu qui va subsister jusqu'à nos jours. En effet, si Keraes est Keris, alors Aes est la princesse de la ville d'Is, donc Aes et Dahu. Keris et Keraes étaient donc liés, d'ici à ce que la prononciation si proche des deux bourgades ait entraîné un mélange de leurs légendes respectives. Il n'y a qu'un pas que je m'empresse de franchir vu que les légendes nous ont déjà habitués à ce genre de choses et que tout ceci ne reste au final qu'une hypothèse. Les légendes de Keris et de Keraes se mélangent et voilà comment Aes, une princesse magicienne bâtisseuse, fait son entrée dans la légende de la ville d'Is. La spécialité d'Aes était de construire des voies pavées ou des forteresses en une seule nuit. C'est une caractéristique que l'on retrouve chez Dahu lorsqu'elle fait construire son palais. Aes fera son entrée officielle dans la légende au XVIIe siècle sous le nom de Dahu. D'où vient ce nom ? Mystère. Pour étoffer un peu ce personnage de Dahu, les colporteurs de l'histoire reprendront à son sujet le schéma littéraire de la princesse qui fait tuer ses amants. Ce schéma remonte à la légende de Marguerite de Bourgogne, 1290-1315, belle-fille du roi de France, Philippe le Bel. Selon la rumeur qui voulait la discréditer, Marguerite observait les passants dans la rue au pied de la tour dans laquelle elle résidait à Paris. Lorsqu'elle en repérait un qui lui plaisait, elle le faisait mander par ses gens, passait la nuit avec, puis le faisait jeter par sa fenêtre dans la Seine où il se noyait. Puisqu'un personnage de princesse fait son apparition dans le récit de la ville d'Is, elle ne pourra donc être que la fille de Gradelon. Et comme magicienne, c'est elle qui causera la perte de la ville. À l'époque, nous sommes encore en période de chasse aux sorcières où toute femme pratiquant la magie fait nécessairement commerce avec le diable. C'est d'ailleurs à lui que Dahu remettra les clés des digues protégeant sa ville. Et voilà donc Dahu telle qu'elle apparaît dans la vie de Saint Guénolé d'Albert le Grand au XVIIe siècle et telle qu'elle va rester jusqu'à nos jours. Au final, Dahu serait donc simplement un avatar de l'enchanteresse Aes, ce qui expliquerait que les deux soient si souvent associés, voire confondus. Voilà qui termine la première partie de notre émission. Nous allons faire une petite parenthèse musicale avec le titre de Nolwenn le Roi, Aes, une chanson de circonstance s'il en est. Merci d'être resté avec nous. Il va s'agir maintenant pour moi de relever le défi de créer une histoire à partir d'éléments que l'un ou l'une d'entre vous a fait parvenir à notre association via sa page Facebook. Aujourd'hui, c'est Hélène qui a été tirée au sort et Hélène nous a proposé un sanglier d'or, une paysanne, un chasseur, un serpent et le marchand de sable. Adèle était une petite fille qui n'avait plus ni père ni mère et de ce fait vivait chez une tante qui ne l'aimait pas beaucoup et la considérait plus comme une servante que comme une nièce. Chaque jour, elle était envoyée en lisière de la forêt de Huelguat où elle devait ramasser glands pour les cochons et branches pour en faire des fagots. Elle avait peur car cette forêt passait pour être enchantée et recélée de terribles secrets plus vieux que le monde lui-même. Toutefois, inutile pour elle de rentrer si elle n'avait pas son quota, sous peine de recevoir le fouet. L'existence n'était donc pas rose pour Adèle, mais elle en prenait son parti et se montrait d'une gentillesse sans bornes avec toutes les créatures qu'elle rencontrait. Voilà sans doute pourquoi, un jour, lorsqu'elle vit sortir de la forêt un sanglier qui alla se cacher dans un buisson tout proche parce que poursuivi par une meute de chiens, elle alla se placer elle-même devant le dit buisson pour protéger l'animal. La meute arriva et l'encercla. Les molosses qui la composaient grognaient, se montraient menaçants, et l'auraient sûrement attaqué si un chasseur arrivant à cheval ne les en avait empêchés. « As-tu vu passer un sanglier, petite ?» demanda l'homme à Adèle. « Je le poursuis depuis ce matin. »« Non, messire, je n'ai rien vu de tel, » répondit la petite fille en tremblant. « Es-tu sûr ? Mes chiens semblent renifler son odeur vers toi. » « Ah, c'est que je nourris les porcs de ma tante chaque soir avec les glands que je ramasse. Ce sont eux qu'ils doivent sentir. » Le chasseur l'observa un instant, puis rameuta ses chiens et repartit sans insister. Quand il se sentit hors de danger, le sanglier sortit de sa cachette. « Merci, » dit-il à Adèle. « Mais tu parles ? » s'étonna la jeune fille. C'est alors que le sanglier se recouvrit d'or sous les yeux ébahis de la petite orpheline. « Eh oui, je parle. Je ne suis pas vraiment un sanglier, mais l'ancien dieu du sommeil, coincé sous cette forme par la nouvelle religion. Tu viens de me sauver la vie. Que puis-je faire pour toi ?» Adèle soupira. « Ma vie n'est pas bien rose, dit-elle. Je n'ai plus mes parents et je ne vois pas ce que vous pourriez faire pour moi. » « Eh bien, je pourrais commencer par te révéler que certes, tu n'as plus ta mère, mais ton père vit encore. Quoi ? Mais comment le savez-vous et pourquoi m'a-t-il laissé alors ?» « Et il n'a pas pu faire autrement, c'était un chevalier qui vivait dans le château, là-bas sur la colline. »«
Celui du sorcier ?»«
Exactement. Le sorcier l'a pris à ton père, après l'avoir transformé en serpent blanc qu'il garde prisonnier à ses côtés dans une cage en verre. Ta mère en est morte de chagrin. »«
Alors voilà ce que vous pouvez faire pour moi. Je veux aller le délivrer. »«
Ce ne sera pas facile. Un géant garde l'entrée du château. »« Mais, reprit Adèle, je croyais que vous étiez un dieu. » Un ancien dieu. Mes pouvoirs ne sont plus ce qu'ils étaient depuis que les gens ne croient plus en moi. Mais je connais quelqu'un qui pourra quand même t'aider. » À ces mots, le sanglier d'or tapa 7 fois sur le sol. La terre s'ouvrit et un homme en sortit avec un grand sac sur l'épaule. « Adèle, voici le marchand de sable, mon premier serviteur qui est resté à mes côtés. Le sable qu'il a dans son grand sac vient des plages du pays des rêves, mon royaume, et peut endormir n'importe quelle créature. » « Sablier, tu vas rester avec cette petite fille et l'aider jusqu'à ce qu'elle ait délivré son père de la malédiction qui le frappe. » L'homme au grand sac ne répondit rien, mais baissa la tête pour acquiescer. Puis, le sanglier d'or disparut. Adèle se rendit au château sur la colline. La forteresse n'était pas accueillante avec ses murs gris couverts de ronces et ses nuées de corbeaux croissant de manière sinistre en volant autour du donjon. Lorsqu'elle arriva au pied du château, un géant avec une énorme massue vint à sa rencontre et leva son arme pour l'écraser. Le marchand de sable prit une poignée de sable dans son sac qu'il souffla sur le géant, et celui-ci s'écroula pour dormir dans l'instant. Une fois à l'intérieur, quelques gardes tentèrent bien d'empêcher Adèle et le marchand de sable d'avancer, mais tous s'endormirent de la même manière que le géant. Ils arrivèrent vite à la salle du trône, cependant le sorcier n'y était pas. Alors Adèle repéra la cage en verre où se trouvait un serpent blanc, sortit le reptile et l'emporta. Elle allait partir lorsqu'elle se trouva face à face avec le sorcier qui venait de rentrer. Furieux, ce dernier fit de grands gestes pour préparer un sort. Alors Adèle lui lança le serpent blanc au visage. Le reptile s'enroula autour du cou du sorcier et le serra.
Le magicien tenta vainement de desserrer son étreinte, mais sans succès. Il mourut étouffé et la malédiction fut brisée. Le chevalier retrouva forme humaine et embrassa sa fille qu'il reconnut immédiatement tant elle ressemblait à sa mère. Adèle pleura de joie tandis que le marchand de sable disparaissait, sa tâche accomplie. La petite fille n'était plus orpheline. Son père, le chevalier, devint roi et elle une princesse qui ne fut plus jamais triste et beaucoup plus tard, qui se maria avec un gentil prince d'un royaume voisin. Voilà Hélène, je pense que tous vos éléments ont été utilisés. Dites-nous ce que vous en pensez sur notre page Facebook. Cela clôt notre émission d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Il était une fois en Cornouailles, 26 minutes en terre des fées rien que pour vous, avec la maison des contes et légendes de Cornouailles. Kenavo, Avéchal.